Question dit histoire.
Bonjour, bienvenue sur RDIWA au 107.5
www.rdiwa.fr.
À l'occasion de la rencontre de Anaël et Quentin du musée de Die
et des élèves de la classe de Monsieur Pierre Hugues de l'école Chabestan, nous allons présenter une émission autour de l'histoire de Die. Aujourd'hui, nous allons poser des questions sur les armes au fil de l'histoire. Mais d'abord, je vais vous présenter Rudy, Charlie, Johan, Lino, Elios et Nathan.
Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 11 ans et j'aimerais savoir comment était fabriquée la poudre à canon.
Alors Charlie, je ne sais pas si je peux donner cette information parce que ça peut donner de très mauvaises idées après de fabriquer de la poudre à canon tout seul. Grosso modo, la poudre à canon, c'est un mélange, enfin au départ, après ça s'est beaucoup amélioré, mais au départ c'est un mélange de soufre, de salpêtre et de charbon de bois. Voilà. Juste avec cette information-là, en général, on prend peu de risques. Et puis... ces trois éléments combinés ensemble vont, si on y met le feu, ont une réaction extrêmement violente et ça permet d'expulser des... si on met ça dans un tube et qu'on bouche avec un boulet par exemple, ça permet d'expulser le boulet assez rapidement et de l'envoyer très loin. D'où l'intérêt de la poudre à canon. Ça permet aussi éventuellement de faire des feux d'artifice, ce qui est plus sympa, mais là avec des colorants en prime.
Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 11 ans et je voudrais savoir comment les canons ont-ils été inventés.
Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 10 ans et demi et je voudrais savoir de quoi étaient constitués les canons.
Alors Johan, l'invention du canon, ça c'est pas vraiment ma spécialité, donc le comment, franchement je ne sais pas. Il est probable que quelqu'un a fait exploser quelque chose et s'est aperçu qu'en améliorant un petit peu les conditions de l'explosion, ça pouvait donner des résultats intéressants, voire amusants. En revanche, ce qui est important à savoir, c'est peut-être le quand. Le canon, c'est une invention, en tout cas pour les Occidentaux, de l'extrême fin du XIVe siècle. Mais au départ, c'est vraiment pas au point, c'est lourd, c'est encombrant, ça explose. Souvent, c'est le canon lui-même qui explose, c'est-à-dire que c'est aussi dangereux pour ceux qui le manipulent que pour les types d'en face. Donc c'est pas vraiment intéressant, mais petit à petit ça va s'améliorer. Les hommes sont toujours très très forts pour améliorer les moyens de flinguer ceux d'en face. Et ce qui est peut-être important à retenir, c'est, je sais pas si ça se fait encore, mais quand j'étais à l'école, on nous apprenait une date phare, qui était 1515 Marignan. Voilà. Et donc toute une génération de gamins qui ont grandi savent que 1515 c'est Marignan, la plupart du temps ils en savent pas plus. Alors 1515, oui. Marignan, c'est un petit bled qui est au sud de Milan, en Italie. Et pourquoi cette date est importante? C'est une bataille de François Ier, donc roi de France, contre le duché de Milan. Et il y avait des Suisses, des mercenaires suisses, qui étaient employés dans les deux armées. C'est-à-dire qu'il y avait des Suisses dans l'armée de François Ier, et puis il y avait des Suisses dans l'armée des ducs de Milan. Ça, à la limite, c'est l'anecdote. Ce qui est important dans cette bataille et dans cette victoire de François Ier, c'est que c'est la première fois où, militairement, on se sert des canons en usage industriel. C'est-à-dire que, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est plusieurs centaines de canons qui ont été alignés par François Ier dans cette bataille. Et c'est ce qui a permis de couper l'élan des soldats suisses du duché de Milan. Et ce qui a permis à François Ier de remporter cette bataille, alors que c'était un tout jeune roi qui venait d'arriver, qui n'avait pas encore fait ses preuves. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Lino, j'ai 11 ans. Je voulais savoir quelles armes ont été inventées à Die, en premier.
Mais que voilà une charmante question, Lino. Quelles armes ont été inventées à Die? À ma connaissance, aucune. Mais je peux me tromper. En revanche, à Die, on a eu, comme tout le monde, une période préhistorique, une période historique. Donc les armes ont servi tout le temps, puisque les gens aiment bien finalement se taper dessus. Donc on peut supposer que la première arme utilisée à Die, on peut le supposer en tout cas, ça a été une massue. Je vois pas de meilleure réponse.
Bonjour, je m'appelle Elias, j'ai 10 ans et je voulais savoir quelles guerres se sont déroulées à Die.
Alors, quelles guerres se sont déroulées à Die, Elias? Le problème, c'est que toutes les guerres ou toutes les batailles n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. Une des plus anciennes, quand même, qui ait laissé des traces, c'est... Alors, c'est pas tout à fait une guerre, c'est un moment un peu spécial. On est en 69 après Jésus-Christ, en l'an 69 après Jésus-Christ, ça ne nous rajeunit pas. Et à Rome, l'empereur vient de mourir et il y a plusieurs prétendants pour le remplacer. Et ces prétendants vont se servir de leur réseau et de leurs copains pour essayer de remporter le titre, évidemment. Alors à l'époque, ce n'est pas avec des élections qu'on désigne le nouvel empereur, c'est le plus fort l'emporte. Et forcément, en moins d'un an, il va y avoir 4 prétendants, 3 morts. Voilà. Et l'un de ces prétendants, pour remporter le morceau, essaye de faire venir des troupes de légionnaires qui étaient cantonnées sur la frontière du Rhin et qui donc vont descendre sur Rome à pied, ça fait une trotte. Et pour descendre sur Rome, ils vont prendre l'autoroute de l'époque, le passage le plus emprunté, c'est-à-dire qu'ils descendent la vallée du Rhône, ils tournent à gauche pour prendre la vallée de la Drôme, pour prendre le col de Cambre, vallée de la Durance, Mont-Genèvre et l'Italie. Et en passant, comme il faut nourrir les légionnaires et puis éventuellement constituer un petit trésor de guerre, les chefs de ces légionnaires, c'est une armée complète, hein, c'est une légion complète, entre 5 et 7 000 hommes qui passent, et les chefs décident de rançonner les villes au passage. Alors à l'époque, existe peut-être, mais c'est juste un petit village sur le bord de la voie. Par contre, la capitale locale, c'est Lucandivoie. Et en arrivant à Lucandivoie, les légionnaires s'arrêtent devant la ville, on pourrait presque dire qu'ils l'assiègent. Et les chefs vont négocier en disant, on veut des sous, on veut de la nourriture, etc. Et si vous nous donnez rien, on brûle la ville. Et donc les Lucois, qui n'ont pas vraiment le choix, vont accéder à ces demandes, fournir ce que demande cette armée de passage, pour ne pas subir le pillage et l'incendie de Luc. Voilà, l'armée va passer, va arriver à Rome, et celui qui avait utilisé des méthodes pareilles, heureusement, ne remporte pas la victoire. Alors, un petit peu plus tard, enfin beaucoup plus tard, puisque là on arrive extrême fin 13e, 14e siècle, on a ce qu'on appelle la guerre des épiscopaux. Alors ça c'est un petit peu compliqué. On a d'un côté les évêques de Die et les évêques de Valence, en fait c'est le même, qui sont aussi comtes de leur ville, donc seigneurs de la ville. Et puis on a des civils qui sont comtes de Diois et Valentinois. Alors évidemment avoir trois comtes sur le même secteur, forcément, ça crée des disputes. Et pendant près d'un siècle, en tout cas dans tout le XIVe siècle, tous ces braves gens vont se battre. Alors il faut imaginer par exemple que la vallée de la Drôme est complètement barrée par les comtes de Diois et Valentinois, ce qui fait que le comte évêque de Die et de Valence est obligé de passer par le col de Barsac et par Aurel pour passer de Die à Valence. Enfin bon, c'est des situations un petit peu cocasses. Ce sont des batailles, ce sont des guerres locales, donc avec relativement peu de victimes. Mais par contre, économiquement, évidemment, pour la région, c'est pas très très bon, parce que les batailles se passent dans les champs, et dans les champs, si on a mis les champs en culture, évidemment, tous les soldats vont piétiner tout ça, et on aura des mauvaises récoltes. Après, on en arrive à l'époque des guerres de religion entre protestants et catholiques. Alors bon, la religion n'est qu'un prétexte pour ces guerres, qui sont évidemment des guerres civiles. C'est-à-dire c'est plutôt des guerres politiques que des guerres religieuses, même si la religion a une grande importance là-dedans. Et à ce moment-là, la ville de Die va être assiégée un certain nombre de fois, avec ou sans succès. On va construire même une citadelle au sommet de la ville pour en assurer un peu plus de protection. Et puis je crois que ça s'arrête là. On va avoir un certain nombre d'armées qui vont passer pour assurer les guerres en Italie, mais pour ce qui est de la ville de Die, je ne crois pas avoir d'autres exemples de batailles qui soient passées sur le secteur même.
Bye.
Bonjour, je m'appelle Rudy, j'ai 11 ans. Et je voudrais savoir quelles sont les armes de la préhistoire retrouvées à Die.
Alors Rudy, ça c'est une question qui est un petit peu compliquée parce qu'il est difficile de séparer les outils de la préhistoire en armes et non-armes. Puisque avec, que ce soit une pierre polie, enfin une hache polie, que ce soit un silex taillé, que ce soit une pointe de flèche, tout ça sert à la fois pour la chasse, donc pour dégommer des animaux, et ça peut aussi servir à dégommer les voisins. Donc c'est très très difficile à séparer. En tout cas, à la préhistoire, j'en ai cité trois. Hein. On se sert, en tout cas pour la chasse, principalement de l'arc, parce que c'est ce qui est le plus pratique. Par contre, les guerres de préhistoire n'ont laissé aucune trace, évidemment. Donc il est très difficile d'en parler. On peut estimer que les gens trouvaient quand même le moyen de se taper dessus, que ce soit avec les outils les plus rudimentaires, c'est-à-dire la bonne vieille massue, que ce soit avec d'autres outils, la hache évidemment, même si c'est pas forcément fait pour ça, que ce soit avec des silex bien tranchants, enfin bon, là l'imagination des hommes est sans limite dans ce domaine, donc tout est bon pour taper sur son voisin, dans tous les cas. Déjà à la préhistoire, oui.
Au revoir.
Au revoir.
Bye bye.
They said many are called, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen. For the blood spilling of Rwanda. They said me shocky shocking up in they go. Thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda, yeah. They said a man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda, Rwanda, Rwanda. These are the cries of the children. Yeah. Anybody in my ground of America? It's the United States of America. Then why can't Africa be the United States of Africa? Rwanda, Rwanda. And if England is the United Kingdom, then why can't Africa unite all the kingdoms and become the United Kingdom of Africa? Rwanda, 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 Rwanda. Yeah, yeah. These are the cries of the children. Yeah, Rwanda, Rwanda. Can anybody out there hear our cries? Yeah, heaven's cries.